RFI, 6h30 à Saint-Louis et à Dakar, 7h30 à Paris.
RFI Matin.
À la une de votre journal, Vincent Dublanche, des législatives sous le sceau de la tension au Sénégal.
Mais elle n'a pas baissé cette tension avec les invectives hier que se sont lancées le Premier ministre et le maire de Dakar, Ousmane Sonko, qui a fini par appeler tout le monde au calme. Dans cette édition, le nom l'Union Européenne qui, pour le moment, ne renouvelle pas son accord de pêche avec le Sénégal. On va vous dire pourquoi dans 3 minutes. On vous raconte aussi la vie à Maputo, au Mozambique, à l'arrêt depuis 3 semaines quasiment et l'annonce contestée de la victoire du Frelimo au scrutin généraux. Et puis notre dossier dans 10 minutes. Nous sommes à Nairobi où le Festival des Arts de la Seine accueille toujours plus de compagnies, de spectateurs année après année, même si dans le pays, le théâtre, la danse, en spectacle, cela reste une culture à construire.
La démocratie sénégalaise au révélateur d'une campagne tendue.
On évoquait hier matin ce rapport d'une organisation de la société civile sénégalaise qui déplore notamment le climat de violence à 5 jours maintenant des législatives anticipées où le duo de l'exécutif sénégalais espère se doter d'une majorité parlementaire. Le Premier ministre Ousmane Sonko a ajouté de l'huile sur le feu dans un premier temps hier. Lui qui mène la campagne de son camp a semblé justifier la violence en évoquant un droit légitime à la riposte. Des militants de son parti, le PASTEF, ont été agressés par des membres d'autres partis. Dans la soirée, le Premier ministre est revenu sur ses propos. Léa-Lisa Vesterov s'est rendue à la réunion publique du PASTEF à Dakar. Reportage.
À 16h, ils sont plusieurs centaines déjà. Banderoles, verts, jaunes et rouges autour du cou, vous vous êtes là à la main, très remontés par les violences de la veille, comme Mamie Touré de la jeunesse PASTEF.
C'est la 3e fois qu'on nous attaque, c'est trop en fait. Maintenant, on est venu pour leur montrer notre force, notre mobilisation, qu'on est plus nombreux, qu'on est plus investis que eux.
Venu de la banlieue de Parcelle-Assainie à l'appel de Sonko, cet étudiant va même plus loin.
Mais eux pour eux, temps pour temps, gâte ça. Non, non. Nous sommes plus nombreux que eux.
Mais partout, les forces de l'ordre sont bien présentes. Et lorsque la tension monte à l'approche du quartier du maire de Dakar, les gaz lacrymogènes calment tout de suite les ardeurs. Objectif, pas de grabuge, comme l'explique Biram Fall, militant du PASTEF.
Nous allons répondre dans les urnes. On va les battre au soir du 17 novembre. On va leur montrer que le Sénégal appartient à PASTEF et à Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye.
Et quand Ousmane Sonko arrive enfin, il n'est plus question de vengeance.
Je vous demande de vous concentrer sur la campagne électorale. Tout ce que j'ai déclaré, je vous demande de ne pas le prendre en compte. Ne provoquez personne, n'insultez et ne frappez personne. L'État fera son travail concernant les personnes arrêtées.
À voir si cet appel sera entendu pour les 3 derniers jours de campagne. Léa-Lisa Vesterov, Dakar, RFI.
Et il est celui, justement, dont la coalition était ciblée par les propos du Premier ministre Ousmane Sonko. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a tenu une conférence de presse hier. Il a répondu au Premier ministre.
Les Dakaroises et les Dakarois ne connaissent pas la violence. Mais les Dakaroises et les Dakarois ont dimanche le 17 l'opportunité de montrer leur identité et surtout de remettre les uns et les autres à leur place. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas leur place à certaines postes de responsabilité. Il nous reste 3 jours. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de convaincre sans contraindre le peuple de Dakar et le peuple du Sénégal en général. Vous devez vous mobiliser. Le Sénégal n'est pas une terre brûlée. Le Sénégal n'est pas une terre de violence. Peuple de Dakar et peuple du Sénégal, vous avez rendez-vous dimanche avec votre avenir. Et évitez surtout d'accepter de verser dans le jeu de la manipulation, dans le jeu de la violence et dans le jeu de la terreur. Nous allons ensemble, main dans la main, construire ce pays, construire l'avenir de nos enfants dans la paix et la sérénité. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.
Barthélémy Diaz, le maire de Dakar. De son côté, l'ancien Premier ministre sénégalais Amadou Ba invite le président Diomaye Faye à agir. Le leader de la coalition Jam Ak Njarin invite à la retenue les acteurs politiques sénégalais. Tout cela n'augure rien de bon pour notre cher pays, a dit Amadou Ba depuis Matam dans l'est du Sénégal où il est actuellement en campagne.
RFI, 6h34 à Dakar. L'autre sujet qui fait parler au Sénégal, c'est cette décision de l'Union européenne de ne pas renouveler l'accord de pêche avec le pays de la Teranga.
Il ne pourra plus légalement y avoir de bateaux européens dans les eaux sénégalaises à partir de ce dimanche, minuit. La raison invoquée par Bruxelles, ce sont ses défaillances dans la lutte contre la pêche illégale, des défaillances qui avaient été notifiées à Dakar, mais pour lesquelles rien n'a été entrepris, en tout cas du point de vue européen. Le décryptage RFI d'Alexis Bédu.
C'était un premier carton jaune. Le 27 mai dernier, Bruxelles notifie les autorités sénégalaises qu'il y a des manquements et des progrès à faire dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, des défaillances sur la traçabilité du poisson notamment. Notification faite, il doit y avoir des signaux que des efforts sont faits, que des améliorations sont mises en œuvre. Or, il n'y a pas eu ces signaux d'après Bruxelles, d'où ce non-renouvellement de l'accord. Ça ne serait pas cohérent, explique l'ambassadeur de l'UE au Sénégal, Jean-Marc Pisani. 18 bateaux espagnols et français ne pêcheront donc plus dans les eaux sénégalaises. Via cet accord, ils étaient autorisés à pêcher 10 000 tonnes de poissons par an. En contrepartie, l'Union européenne a versé 10 milliards de francs CFA, soit 12 millions d'euros depuis 2019. Cette situation de blocage n'est pas exceptionnelle, puisqu'entre 2006 et 2014, déjà, il n'y avait pas d'accord de pêche entre Bruxelles et Dakar.
Alexis Bédu du service économie des RFI. Les bateaux européens pourront continuer de pêcher ailleurs s'ils le souhaitent, a ajouté l'ambassadeur hier, l'ambassadeur de l'UE à Dakar. Il existe en effet des accords de pêche aussi avec la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie ou encore le Cap-Vert. Une organisation non gouvernementale française interdite d'agir au Niger. L'ONG Acted se voit retirer son autorisation. L'arrêté du ministère nigérien de l'Intérieur, du gouvernement issu du putsch de l'an dernier, ne donne pas d'explication.
Au Ghana, Vincent, le parti présidentiel est bel et bien le parti majoritaire au Parlement.
C'est en tout cas ce que laisse entendre le jugement hier de la Cour suprême, la plus haute juridiction du Ghana, qui a jugé inconstitutionnelle la décision du speaker, le président du Parlement ghanéen, qui avait déclaré vacant 4 sièges et qui, de fait, avait rendu le parti d'opposition majoritaire au Parlement. Le Parlement avait suspendu ses travaux depuis, mais on est désormais à 3 semaines des législatives. La question d'une reprise ou non de ces travaux parlementaires se pose clairement au pays d'Afrique de l'Ouest. Décision de justice également au Mali. Hier, pas de libération provisoire pour les 11 cadres politiques de la déclaration du 31 mars. En détention provisoire depuis 5 mois, poursuivi notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Le juge d'instruction avait ordonné en septembre leur libération provisoire. Le procureur s'y était opposé. La cour d'appel lui a donné raison, David Baché.
Cette décision n'est pas juste et juridiquement on ne la comprend pas, fulmine l'un des avocats des 11 cadres politiques détenus, maître Ibrahim Marouf Sako. Ce sont des chefs de parti d'un certain âge, développe l'avocat, qui ont tenu une réunion dans un domicile privé, qui n'ont pas fait de manifestation, qui n'ont pas posé de barricades, qui ne troublent en rien l'ordre public. Leur libération se serait faite sous contrôle judiciaire. Comment justifier leur maintien en détention, s'indigne encore l'avocat. À ce stade, les motivations de cette décision n'ont pas été transmises par la cour d'appel. Le dossier des 11 doit à présent être renvoyé devant le tribunal de la commune 5 de Bamako, dont le juge d'instruction avait ordonné la libération des accusés en septembre, avant l'opposition du parquet. Si de nouveaux éléments apparaissent, la défense pourra formuler de nouvelles demandes de libération dans l'attente d'un procès dont la date n'a toujours pas été fixée. C'est du dilatoire pour faire durer le supplice, comme un ancien ministre, membre de la déclaration du 31 mars. Ce durcissement du régime est un signe de fébrilité, analyse un autre. La justice malienne est caporalisée par les autorités de transition, conclut avec dépit un cadre de l'opposition.
Des confrontations dans le cadre de l'enquête judiciaire au Bénin autour des anciens très proches de Patrice Talon, Olivier Boko, Oswald Romeki et un comptable, 3 accusés dans une affaire alléguée de tentative de déstabilisation. Tous 3 ont donc été confrontés les uns aux autres dans le bureau du magistrat instructeur de la Criette, la cour spéciale. C'était lundi et on va en parler en détail dans 1 heure.
Journée de vote ce mercredi au Somaliland. L'État autoproclamé indépendant organise sa présidentielle.
Un peu plus d'un million d'électrices et d'électeurs qui votent depuis maintenant 3 bonnes heures. Cet État n'est pas reconnu par la communauté internationale. La Somalie considère toujours que le Somaliland fait partie intégrante de son territoire. Au Mozambique, c'est aujourd'hui que débute l'appel à manifester pendant 3 jours lancé par l'opposant Venancio Mondlane qui continue de revendiquer la victoire à la présidentielle. Il demande aux protestataires de manifester dans les capitales provinciales du Mozambique, au niveau des frontières, des ports du pays. Cette situation de blocage politique, économique, social, les commerçants de la capitale Maputo la vivent depuis maintenant quasiment 3 semaines et l'annonce des résultats provisoires officiels à Amélie Tulley.
Sur l'avenue Karl Marx, il n'y a pas âme qui vive. Olga Raimundo y vend des sodas. Elle gagne environ 200 médicaïches par jour, moins de 3 euros. Mais aujourd'hui encore, elle doit fermer boutique.
J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai des enfants. Et si on me tire dessus? Les manifestations nous coûtent à nous qui vendons dans la rue. Mais c'est peut-être aussi une bonne chose. Le prix de la nourriture a augmenté. On ne peut pas envoyer nos enfants à l'université. Les choses basiques coûtent cher.
Julieta Domingos vend des tickets de loterie. Depuis le début de la contestation, elle a perdu près de 2000 métikaïs, soit 30 euros, près du tiers de son loyer, ce qui n'empêche pas son engagement dans la contestation.
Ça fait presque 15 jours que je ne travaille pas. Moi, je ne gagne de l'argent que si je sors. Ils disent qu'il faut des sacrifices pour que les choses aillent mieux. Alors nous devons manifester. Moi, je crois qu'il va y avoir du changement.
Le nez sous un capot, Moisés, 20 ans, répare des voitures. Son garage, c'est la rue à Agostinho Neto, car il n'a pas les moyens d'avoir un local et ne trouve pas d'emploi.
En vérité, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent, mais je soutiens le mouvement. Ça en vaut la peine, parce que ça fait 50 ans que l'on souffre. On est fatigué de vivre depuis 49 ans avec un seul parti qui ne fait rien. On ne vit pas, on survit.
D'après le Centre pour l'intégrité publique, une organisation de la société civile, la contestation électorale a déjà coûté au Mozambique près de 360 millions d'euros.
Et elle a fait une trentaine de morts au moins depuis près de 3 semaines, selon les décomptes de plusieurs organisations de défense des droits humains.
Le dossier de cette édition sur les planches à Nairobi, RFI, vous emmène au théâtre.
Et la capitale kényane accueille la 9e édition du Kit Fest jusqu'à dimanche, festival international qui donne à voir des spectacles de théâtre, de chant, de poésie, de danse, de cirque, de marionnettes. C'est divers, mais une chose rassemble les artistes, la difficulté de vivre de leur métier. Reportage Alban Tiroir.
Dernière répétition pour cette troupe avant la représentation du soir. La performance des acteurs mélange musique et narration. The Big Boys of Shibale évoque la vie d'un village affecté par la fermeture d'une usine de sucre. C'est la deuxième fois que la pièce est présentée au festival. Marc Waburé en est l'auteur et directeur. Il compte sur le Kit Fest pour la mettre en avant.
Le grand public au Kenya n'a pas vraiment adopté le théâtre comme activité de loisir. Donc gagner de l'argent pour les artistes, c'est difficile. Parfois, il faut faire un autre travail à côté. Nous, ces dernières années, nous avons investi notre propre argent pour monter notre spectacle. Là, à la fin de cette représentation, nous allons lancer un appel aux dons pour pouvoir nous produire en Ouganda.
Les danseurs tanzaniens de Waka Waka s'apprêtent eux aussi à se produire sur scène. Zingo est l'un des artistes de la troupe. Danseur depuis 15 ans, il a monté une école de danse à Dar es Salaam pour vivre de sa passion.
Vivre comme un artiste en Tanzanie, ce n'est pas facile. Nous le faisons parce que nous sommes passionnés. Mais c'est difficile d'être pris au sérieux. Pendant longtemps, la danse était vue comme un loisir et non comme une carrière professionnelle. Nous disions à nos parents que nous voulions être artistes. Ils nous répondaient dès qu'on était fou. Heureusement, les mentalités évoluent petit à petit.
Au festival, les représentations s'enchaînent, de quoi encourager les artistes qui restent optimistes de voir l'art du spectacle gagner en popularité.
Et écoutez maintenant le point de vue expert du directeur du festival, Benson Gobia.
Pendant longtemps, l'art du spectacle n'a pas été perçu comme une activité économique au Kenya. Quand une personne disait être acteur, producteur ou danseur, la société ne la voyait pas comme une personne sérieuse, alors que l'art théâtral fait partie intégrante de la culture kenyane. Les enfants écoutent des histoires le soir, dansent pendant les cérémonies, ceux qui grandissent au village sont habitués aux danses pendant les récoltes. Lors des rites de passage comme la circoncision, il y a aussi des danses, des chants, des récits. Mais la culture d'aller dans un théâtre pour assister à un spectacle vient plutôt de l'Occident. Nous l'avons adopté petit à petit et aujourd'hui nous avons un modèle qui reprend l'art du spectacle traditionnel africain, mais monté sur des planches. Dans les régions rurales, c'est vrai qu'il n'y a pas encore forcément de théâtre professionnel ou commercialisé, mais plutôt du théâtre communautaire, c'est-à-dire du théâtre pour le développement par exemple. Les ONG ou le gouvernement notamment utilisent ces espaces pour faire passer un message, mais finalement dans ces zones rurales aussi, le théâtre reste populaire, même si moins commercialisé que dans les grandes villes.
Et c'est sur ces mots que vous retrouvez André Anne Mellard.
Merci Vincent Dublanche.
À tout à l'heure.